Chapitre 10. Nombreux sont ceux qui probablement nous jugeront insensibles et fous d'avoir pensé au tunnel nord et à l'abysse si peu de temps après avoir fait cette macabre découverte. Et je ne jurerais pas que nous serions revenus immédiatement à cette idée sans la circonstance particulière qui survint et déclencha une toute nouvelle série de conjectures. Nous avions replacé la bâche sur le pauvre Guedney et nous trouvions dans un état de muette stupéfaction lorsque des bruits parvinrent jusqu'à notre conscience. Les premiers que nous entendions depuis que nous avions quitté la surface, où le vent gémissait faiblement du haut des sommets formidablement élevés. Bien qu'ils fussent familiers et banals, entendre de tels bruits dans ce lointain royaume de la mort était plus inattendu et démoralisant que n'aurait pu l'être n'importe quel son insolite ou surnaturel, car il venait bousculer une fois encore notre conception de l'harmonie cosmique. Et s'ils avaient un tant soit peu ressemblé à cet étrange son flûté à large tessiture que le rapport de dissection de Lake nous avait conduit à attribuer par avance aux créatures, et qu'en réalité nos imaginations à bout avaient cru reconnaître dans chaque plainte du vent depuis notre arrivée au camp dévasté, ils auraient au moins présenté une sorte de conformité infernale avec cette région morte depuis des millénaires, une voix d'un autre temps étant à sa place dans un cimetière d'un autre temps. Mais en l'occurrence, ce bruit réduisait à néant tous nos réglages profondément établis. Notre tacite acceptation de l'Antarctique comme un désert aussi absolument et irrévocablement vide de tout vestige de vie normale que le disque stérile de la Lune. Ce que nous entendions n'était pas la voix légendaire d'un quelconque blasphème enfoui sous une terre antique et surnaturellement dure de laquelle un soleil polaire hors du temps aurait arraché quelques monstrueuses réactions. Non, c'était une chose si ridiculement normale et immanquablement familière. Depuis notre séjour en mer au large des côtes de la terre Victoria et l'époque où nous campions dans le détroit de McMurdo, que nous tremblâmes de l'entendre en ce lieu où elle n'aurait pas dû être possible. En un mot, c'était un cri rauque de manchot. Le son étouffé montait de renfoncement sous la glace, presque en face du couloir par lequel nous étions arrivés, c'est-à-dire exactement dans la direction de l'autre tunnel menant au vaste abîme. La présence d'un oiseau marin vivant de ce côté, dans un monde dont la surface était uniformément dénuée de vie, et ce depuis des temps immémoriaux, ne pouvait mener qu'à une conclusion. Aussi notre première idée fut-elle de vérifier la réalité objective de ce son. En effet, il se répétait et semblait même parfois provenir de plus d'un gosier. Partant à la recherche de son origine, nous franchîmes une voûte presque entièrement déblayée et reprîmes notre exploration, non sans avoir prélevé, avec une drôle de répugnance, une réserve de papier supplémentaire dans l'un des chargements bâchés sur les traîneaux, en laissant derrière nous la lumière du soleil. Le sol glacé faisant place à une jonchée de détritus, nous distinguâmes clairement de curieuses traînées. Danforth trouva même une empreinte nette, et qu'il m'est inutile de vous décrire. La direction des cris de manchot correspondait précisément à celle qu'indiquait notre plan et notre boussole pour rejoindre l'entrée du tunnel nord. Nous découvrîmes avec satisfaction, au rez-de-chaussée et au sous-sol, un passage sans pont qui nous parut dégagé. D'après le plan, le tunnel devait partir du sous-sol d'un grand édifice pyramidal dont nous nous souvenions vaguement pour avoir remarqué, lors de notre vol de reconnaissance, qu'il était remarquablement bien conservé. En chemin, notre lampe révéla l'habituelle profusion de sculptures, mais nous ne prîmes pas le temps d'en regarder une seule. Tout à coup, une imposante forme blanche surgit devant nous. Nous allumâmes la seconde torche. Étrangement, cette nouvelle quête avait totalement détourné nos esprits de leurs craintes initiales quant à ce qui pouvait se tapir non loin. Les créatures ayant laissé leur matériel sur la grande place circulaire avaient probablement prévu de revenir après leur excursion vers ou dans l'abysse. Et pourtant, nous avions oublié toute prudence les concernant, comme si elles n'avaient jamais existé. Cette chose blanche qui se dandinait devant nous mesurait bien 1,80 m, mais nous comprîmes aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une de ces créatures. Elles étaient plus grandes, plus sombres et, d'après les bas-reliefs, se déplaçaient vite et avec assurance à la surface, malgré les étranges tentacules marins dont elles étaient équipées. Mais il serait futile de prétendre que la chose blanche ne nous effraya pas profondément. En effet, nous fûmes un instant saisis d'une terreur primitive presque plus intense que la pire de nos peurs raisonnées à l'égard des autres créatures. Puis la tension redescendit subitement lorsque la forme laiteuse se faufila dans un passage latéral sur notre gauche pour aller rejoindre deux de ses congénères qui l'avaient appelé de leur voix rauque. Car ce n'était qu'un manchot, quoique d'une race énorme et inconnue, bien plus grande que les plus grands manchots royaux, et monstrueuse en ceci que la bête était à la fois albinos et quasiment sans yeux. Nous la suivîmes dans le tunnel voûté et braquâmes nos deux torches sur les trois animaux indifférents et insouciants, ce qui nous permit de voir que tous étaient albinos et aveugles, et appartenaient à la même espèce inconnue et gigantesque. Leur taille nous rappela certains manchots archaïques représentés dans les bas-reliefs des anciens, et il ne nous fallut pas longtemps pour en conclure qu'ils en descendaient. Sans doute la lignée avait-elle survécu en se repliant dans quelques régions souterraines plus chaudes, dont l'obscurité perpétuelle avait détruit leurs pigments et réduit leurs yeux à de simples fentes inutiles. On ne pouvait douter que leur habitat actuel fût le grand gouffre que nous cherchions. Et cette preuve qu'il demeurait habitable et à température constante nous emplit d'idées tout à fait singulières et vaguement inquiétantes. Nous nous demandions aussi ce qui avait pu pousser ces trois oiseaux à s'aventurer hors de leur domaine habituel. L'état et le silence de la grande ville morte montraient clairement qu'elle n'avait jamais servi de colonie estivale récurrente. Quant à l'indifférence manifeste des trois animaux pour notre présence, elle rendait improbable l'hypothèse suivant laquelle les autres auraient pu leur faire peur en passant. Était-il possible que les créatures se soient montrées agressives ou qu'elles aient voulu augmenter leurs réserves de viande? Nous doutions que l'odeur âcre qui avait tant dérangé les chiens eût éveillé le même genre d'antipathie chez les manchots, car leurs ancêtres avaient manifestement vécu en excellents termes avec les anciens, une relation amicale qui devait se poursuivre dans l'abîme, pour autant qu'il reste des anciens. Regrettant, dans un sursaut de notre vieil esprit purement scientifique, de ne pouvoir prendre des clichés de ces anomalies de la nature, nous les abandonnâmes bientôt à leur jabotage et poussâmes vers le gouffre que, désormais, nous savions ouvert et dont les empreintes occasionnelles des manchots nous indiquaient la direction. Peu après, nous descendions un long couloir bas en pente raide, sans porte, et étrangement dénué de sculptures, qui nous fit penser que nous approchions enfin de l'entrée du tunnel. Nous avions encore croisé deux manchots, et en avions entendu d'autres droit devant nous. Puis le couloir déboucha sur un espace ouvert si vaste que nous ne pûmes que retenir notre souffle en le voyant. Il s'agissait d'une parfaite demi-sphère inversée, à l'évidence très profondément enfouie, de 30 mètres de diamètre pour 15 de haut, doté de basses portes voûtées ouvrant de tous côtés de sa circonférence sauf un, où béait une noire ouverture caverneuse en arc, qui venait casser la symétrie de la salle à une hauteur de près de 4,50 m. C'était l'entrée du grand abysse. Dans cet immense hémisphère, dont le plafond concave était sculpté de manière impressionnante, bien que décadente pour ressembler à la voûte céleste primordiale, se dandinaient quelques manchots albinos. Ils n'y étaient pas à leur place, mais n'en avaient cure, dans leur aveugle indifférence. Le tunnel noir ouvrait à perte de vue sur une descente raide. Des montants et un linteau étaient grotesquement ciselés sur le pourtour de son entrée. Nous eûmes l'impression qu'un courant d'air un peu moins froid et peut-être même une légère vapeur sortait de cette gueule mystérieuse. Et nous nous demandâmes quels êtres vivants autres que ces manchots pouvaient bien se cacher dans les profondeurs du vide infini, mais aussi dans les galeries attenantes, sous le plateau et les montagnes titanesques. Nous nous demandâmes aussi si les traces de fumée que le pauvre Lake avait cru voir au sommet des montagnes, ainsi que l'étrange brume que nous avions nous-mêmes perçue autour du pic couronné de remparts, ne résultait pas de la remontée par des chemins tortueux du même genre de vapeur issue des entrailles insondables de la terre. En pénétrant dans le tunnel, nous vîmes qu'il mesurait, du moins au départ, à peu près 4,50 m de haut et de large, Les murs, le sol et le plafond voûté étaient bâtis selon l'habituelle maçonnerie mégalithique. Les côtés étaient sommairement décorés de cartouches à la stylisation tardive et décadente. L'ensemble de la construction et des sculptures était merveilleusement bien conservé. Le sol était dégagé, exception faite d'une légère couche de débris portant les traces du passage des manchots en direction de la sortie et des autres vers l'intérieur. Plus nous nous enfoncions, plus il faisait chaud, si bien que nous ne tardâmes pas à déboutonner nos lourds vêtements. Nous nous demandâmes s'il y avait là en bas quelque phénomène igné en jeu, et si les eaux de cette mer sans soleil étaient chaudes. Après une courte distance, la maçonnerie fit place à la roche massive. Même si le tunnel conservait les mêmes proportions et présentait le même aspect de sculpture singulière. Par endroits, la pente variable devenait si forte qu'on avait creusé des rainures dans le sol. À plusieurs reprises, nous remarquâmes les ouvertures de petites galeries latérales qui ne figuraient pas sur notre plan. Mais aucune n'était de nature à compliquer notre retour, et tout offrirait des possibilités de refuge au cas où nous rencontrerions des créatures importunes revenant de l'abysse. L'odeur indéfinissable de ces êtres était très perceptible. Étant donné les circonstances, se risquer dans ce tunnel tenait sans aucun doute de la folie suicidaire, mais, chez certains, l'attrait de l'inconnu est plus fort qu'on ne le croit en général. D'ailleurs, c'était précisément un tel attrait qui nous avait amenés à explorer cet étrange désert polaire. Nous vîmes plusieurs manchots au passage et fîmes des hypothèses quant à la distance qui nous restait à couvrir. Sur la foi des bas-reliefs, nous nous attendions à une descente abrupte d'environ 1,5 km jusqu'à l'abysse. Mais nos précédentes pérégrinations nous avaient montré que l'on ne pouvait se fier tout à fait à ce genre d'estimation. Au bout de 400 mètres, l'indéfinissable odeur se fit beaucoup plus nette, et nous notâmes soigneusement l'emplacement des différentes ouvertures latérales que nous dépassions. Contrairement à l'entrée, on n'y décelait aucune vapeur. La température grimpait vite, et nous ne fûmes pas surpris de tomber sur un tas désordonné dont le contenu nous était effroyablement familier. Il se composait de fourrures et de toiles de tente provenant du camp de Lake. Nous ne nous arrêtâmes pas pour étudier les formes étranges qu'on leur avait données en les tailladant. Légèrement plus loin, nous remarquâmes une nette augmentation de la taille et du nombre des galeries latérales, et décidâmes que nous avions atteint le sous-sol des contreforts les plus élevés, où le réseau de tunnels était plus dense. L'odeur indescriptible se mélangeait curieusement à une autre à peine moins écœurante, dont nous ne pûmes déterminer la nature, mais qui nous fit penser à des organismes en décomposition et, peut-être, à des champignons inconnus à la surface. Puis le tunnel s'élargit d'une façon d'autant plus surprenante que les bas-reliefs ne nous avaient pas préparés à un tel changement. Il prit de la largeur et de la hauteur pour se transformer en une impressionnante caverne en forme d'ellipse et d'aspect naturel, dont le sol mesurait près de 20 mètres de long pour 15 de large, et dont les côtés étaient percés de nombreux passages immenses s'enfonçant dans les ténèbres mystérieuses. Bien que cette caverne fût apparemment naturelle, une inspection à l'aide de nos deux torches révéla qu'elle s'était formée à la suite de la destruction artificielle de plusieurs parois séparant des galeries adjacentes. Les parois étaient rugueuses, la haute voûte couverte de stalactites, mais le sol de roche brute avait été aplani et était si vierge de décombres, de débris ou même de poussière que c'en était anormal. À part le chemin par lequel nous étions arrivés, c'était vrai du sol de tous les grands tunnels qui partaient de la caverne, et cette particularité était si frappante que nous nous interrogeâmes en vain. La curieuse odeur fétide qui s'était ajoutée à l'innommable puanteur initiale était excessivement âcre, au point même d'éclipser totalement l'autre. Ce lieu, avec son sol poli, voire presque luisant, nous sembla plus obscurément déroutant et horrible que n'importe laquelle des monstruosités que nous avions rencontrées jusque-là. La régularité du passage juste devant nous, ainsi que l'abondance de fientes de manchots, nous dispensèrent d'hésiter sur le chemin à suivre, malgré la pléthore d'entrées d'égale grandeur. Cependant, nous décidâmes de reprendre notre piste de papier au cas où surviendrait une nouvelle complication. Car bien entendu, en l'absence de poussière, nous ne pouvions plus compter sur les empreintes. Reprenant notre marche, nous braquâmes notre torche sur les murs du tunnel. Et nous nous arrêtâmes net, estomaqués par le changement radical des sculptures dans cette partie du passage. Bien sûr, nous étions conscients de la grande décadence de l'art des anciens à l'époque où le tunnel avait été creusé, et nous avions bien remarqué le travail inférieur des arabesques dans les sections que nous venions de traverser. Mais dans cette zone plus profonde après la caverne, nous vîmes une brusque différence qui ne pouvait s'expliquer. Une différence fondamentale de nature aussi bien que de qualité, supposant une régression si profonde et désastreuse du savoir-faire des artistes que rien dans les signes de déclin observés jusque-là n'aurait pu la laisser prévoir. Ces nouvelles œuvres dégénérées étaient grossières, prétentieuses, et leurs détails manquaient totalement de finesse. Elles étaient creusées en bandes excessivement profondes suivant la même ligne générale que les cartouches disséminées dans les sections précédentes, et les reliefs n'atteignaient pas le niveau de la surface. Danforth était d'avis qu'il s'agissait d'une seconde gravure, une sorte de palimpseste obtenue après oblitération du motif d'origine. Elles étaient de nature purement décorative et conventionnelle, et étaient composées de spirales et d'angles grossiers suivant à peu près la tradition mathématique du quintle, si chère aux anciens. Toutefois, cela ressemblait davantage à une parodie qu'à une perpétuation de ladite tradition. Nous ne pouvions nous ôter de l'esprit qu'au-delà de la technique. Quelques éléments subtils mais profondément étrangers s'étaient ajoutés au style esthétique. Éléments étrangers qui, d'après Danforth, était responsable de cette laborieuse substitution. Ses œuvres étaient proches et, cependant, bizarrement différentes de ce que nous avions appris à reconnaître pour l'art des anciens. Je ne pouvais m'empêcher de penser à des œuvres hybrides, comme les disgracieuses sculptures palmyréennes inspirées du style romain. La présence d'une pile de lampes usagées sur le sol, devant l'un des cartouches les plus caractéristiques, nous révéla que d'autres avaient récemment examiné cette ceinture de bas-relief. Puisque nous n'avions pas de temps à perdre en études scientifiques, nous reprîmes notre route après un rapide coup d'œil. Cependant, nous ne manquâmes pas d'éclairer fréquemment les murs pour voir d'autres changements éventuels dans la décoration. Nous ne remarquâmes rien de tel, sinon que, par endroits, les bas-reliefs étaient assez clairsemés à cause des nombreuses entrées de tunnels latéraux au sol lisse. Nous croisions et entendions moins de manchots, mais il nous sembla vaguement en percevoir tout un cœur très loin dans les entrailles de la terre. La nouvelle odeur inexplicable était horriblement forte, si bien que nous percevions à peine l'autre puanteur plus accentuée et la relative proximité des falaises sans soleil du grand abysse. Tout à coup, nous vîmes devant nous des obstacles sur le sol luisant, et à coup sûr, il ne s'agissait pas de manchots. Nous allumâmes notre seconde torche après nous être assurés qu'ils étaient parfaitement immobiles. 11e partie. Une fois encore, me voici parvenu à un point où il m'est très difficile de poursuivre mon récit. À force, je devrais être endurci, mais certaines expériences, certains signes, laissent des cicatrices trop profondes pour qu'on en guérisse et ne font qu'exacerber la sensibilité de sorte que la mémoire réinsuffle toute l'horreur initiale dans nos souvenirs. Comme je l'ai dit, nous vîmes des obstacles sur le sol poli. Et je dois le préciser, nos narines furent presque aussitôt assaillies par une très curieuse aggravation de la non moins étrange puanteur dominante, désormais tout à fait mêlé à l'odeur indéfinissable de ceux qui nous avaient précédés. La lumière de la seconde lampe ne laissa aucun doute sur la nature des obstacles, et si nous osâmes les approcher, c'est uniquement parce que même à cette distance, il était évident qu'ils étaient devenus aussi inoffensifs que leurs six congénères exhumés des monstrueuses tombes surmontées de tertres en forme d'étoiles au camp du pauvre Lake. En effet, ils étaient aussi incomplets que la plupart des spécimens enterrés, même si, à voir la flaque d'épais liquide vert sombre qui se répandait autour d'eux, ils ne faisaient aucun doute que leur mutilation était infiniment plus récente. Ils n'étaient que quatre alors que, d'après les comptes rendus de Lake, le groupe qui nous précédait ne comptait pas moins de 8 individus. Nous ne nous étions pas du tout attendus à les trouver dans cet état, et nous nous demandâmes quel genre de bataille monstrueuse avait pu se produire là, dans les ténèbres. Quand on s'en prend à un groupe de manchots, les oiseaux ripostent sauvagement un coup de bec, et nos oreilles nous confirmaient l'existence d'une colonie loin vers l'avant. Les autres créatures l'avaient-elles dérangée, provoquant une poursuite meurtrière? Les obstacles ne suggéraient rien de tel, car étant donné la résistance des tissus que Lake avait disséqués, des becs de manchots pouvaient difficilement être responsables des terribles blessures que nous commencions à distinguer en approchant. Par ailleurs, les énormes oiseaux aveugles que nous avions croisés nous semblaient singulièrement pacifiques. Y avait-il eu échauffourée entre les créatures? Et les quatre absents étaient-ils responsables? Si oui, où étaient-ils passés? Étaient-ils tout proches? Et constituaient-ils donc une menace immédiate pour nous? Nous jetâmes des coups d'œil inquiets vers certains passages latéraux au sol lisse, tout en continuant notre approche, lentement, avec une franche réticence. Quelle qu'ait été la raison du conflit, c'était manifestement celui-ci qui avait effrayé les manchots et les avait poussés à errer, ce qui n'était pas dans leurs habitudes. La rixe avait donc dû éclater près de la colonie dont nous percevions vaguement l'écho venant de ce gouffre incommensurable. En effet, rien ne montrait que les oiseaux aient pu avoir leur habitat à l'endroit où nous nous trouvions. Peut-être la funeste bataille avait-elle tourné à la poursuite, les vaincus battant en retraite vers les traîneaux cachés lorsque leurs poursuivants les avaient achevés. On imaginait ces créatures d'une horreur sans bornes, opposées dans une infernale bataille, surgir de l'abysse noire parmi une nuée de manchots affolés jabotant et fuyant devant elles. Comme je l'ai dit, nous approchions des corps étendus et mutilés avec lenteur et réticence. Si seulement nous étions ressortis à toutes jambes de ce maudit tunnel, avec son sol lisse et luisant et ses bas-reliefs dégénérés, singeant et tournant en ridicule les œuvres qui les avaient précédées, ressortis avant de voir ce que nous vîmes et avant que nos esprits ne soient marqués à vie, de sorte que jamais plus nous ne serions en mesure de respirer normalement. Les deux torches braquées sur les corps allongés, nous perçûmes vite un facteur récurrent dans leurs blessures. Tout mutilé, écrasé, tordu et sectionné qu'ils fussent, la pire lésion commune à tous les cadavres était leur décapitation totale. On avait coupé à chacun sa tête en étoile de mer garnie de tentacules. Et une fois à proximité, nous vîmes qu'il n'y avait pas simplement eu décollation, mais quelques répugnants arrachages ou succions. Une grande flaque de sanie verte se répandait autour, mais sa puanteur était à moitié masquée par la seconde odeur, plus étrange encore et plus agressive que jamais. C'est seulement une fois arrivé très près des obstacles étendus que nous repérâmes la source de cette dernière odeur inexplicable. Et Danforth, se rappelant certaines sculptures particulièrement frappantes sur l'histoire des anciens à la période permienne, il y a 150 millions d'années, laissa échapper un cri d'angoisse dont l'écho se répercuta frénétiquement le long de l'archaïque passage voûté au palimpseste maléfique. Je ne fus pas loin de l'imiter, car j'avais moi aussi vu ces sculptures primitives et admiré en frémissant la manière dont l'artiste anonyme avait suggéré la repoussante couche de bave visqueuse découverte sur certains anciens gisants mutilés, à savoir ceux que les effroyables Shoggoths, au cours de la grande guerre de reconquête, avaient massacrés d'atroces manières, et dont ils avaient aspiré la tête jusqu'à l'arracher. Ces sculptures étaient infâmes, cauchemardesques, même quand elles parlaient de temps révolus, vieux comme le monde, car les Shoggoths et leurs travaux ne devraient jamais être ni vus des hommes, ni représentés par aucun être. L'auteur fou du Necronomicon s'était risqué à jurer, non sans appréhension, que nul Shoggoth n'avait été engendré sur cette planète, et que seuls des rêveurs drogués avaient pu ne fût-ce que concevoir leur existence. Des protoplasmes amorphes, capables d'imiter et de refléter toutes les formes, tous les organes et actions. Visqueuses agglutinations de cellules bouillonnantes. Sphéroïdes élastiques de 4,50 mètres, infiniment malléables et ductiles. Esclaves sous hypnose, bâtisseurs de cités, toujours plus renfrognés, toujours plus intelligents, toujours plus amphibies, toujours plus imitateurs. Grand Dieu, quelle folie avait poussé ces maudits anciens à employer et sculpter pareille créature. Alors, quand Danforth et moi vîmes la bave noire, luisante de fraîcheur, avec ses reflets irisés collants, couches épaisses à ses corps sans tête, empestant affreusement cette seconde odeur indéfinissable, dont seul un esprit malade aurait pu imaginer la source, collant à ses cadavres, et parsemant en couches plus fines une partie lisse du mur au terrible palimpseste, de façon à former une série de points groupés, et nous saisîmes l'essence de la peur cosmique jusque dans ses ultimes profondeurs. Ce n'était pas la peur des quatre autres manquants, non, car nous soupçonnions fort qu'ils ne feraient plus de mal à personne. Les pauvres diables. En fin de compte, ils n'étaient pas mauvais dans leur genre. C'étaient les hommes d'un autre âge, d'un autre ordre d'existence. La nature leur avait joué un bien vilain tour, et recommencera pour chacun de ceux que les humains, par folie, insensibilité ou cruauté, déterreront encore dans cet horrible désert polaire, mort ou endormi. Cette tragédie était tout ce qu'ils avaient gagné à rentrer chez eux. Ces créatures n'étaient même pas sauvages, car qu'avaient-elles fait en réalité? Ce terrible réveil dans le froid d'une époque inconnue? Peut-être avaient-elles été attaquées par des quadrupèdes à fourrure aboyant frénétiquement et s'étaient-elles défendues malgré leur hébétude, de même que contre les simiens blancs tout aussi frénétiques, avec leur drôle d'enveloppe et leur attirail? Pauvre Lake, pauvre Gedney, et pauvres anciens, scientifiques jusqu'au bout, qu'avaient-ils fait que nous n'aurions pas fait à leur place? Dieu, quelle intelligence et quelle persévérance! Quelle incroyable confrontation comparable à celle, à peine plus crédible, qu'avaient vécu leurs frères et ancêtres des bas-reliefs! Radiaires, végétaux, monstres, rejetons des étoiles, quoi qu'ils aient été, c'étaient des hommes. Ils avaient franchi les pics glacés dont les pentes parsemées de temples avaient jadis été leur lieu de culte, et dans lesquels ils avaient erré parmi les fougères arborescentes. Ils avaient trouvé leur cité morte, ruminant sous sa malédiction, et appris comme nous les derniers chapitres de son histoire dans les bas-reliefs. Puis ils avaient essayé de rejoindre leurs semblables vivants dans les fabuleux abîmes de ténèbres qu'ils ne connaissaient pas. Et qu'avaient-ils trouvé? Tout cela défila en accéléré dans nos esprits, alors que nos regards passaient de ces silhouettes sans tête et couvertes de bave aux haïssables palimpsestes sculptés et aux diaboliques groupes de points de bave fraîches à côté, sur le mur. Et que tout en regardant, nous comprenions ce qui avait dû triompher et survivre là, en bas, dans la ville marine cyclopéenne, au fond de cet abysse noir au rivage envahi de manchots, et d'où une sinistre brume ondulante et blafarde avait commencé à jaillir, comme en réaction aux cris hystériques de Danforth. Le choc que nous avions éprouvé en reconnaissant cette bave et cette décapitation monstrueuse nous avait laissé pétrifiés et muets. Et c'est seulement plus tard, au fil de nos conversations, que nous découvrîmes la parfaite identité de nos pensées à cet instant-là. Nous avions l'impression d'être là depuis une éternité, alors qu'il ne pouvait pas s'être passé plus de 10 ou 15 secondes. Cette horrible brume blême s'avançait en ondulant, comme poussée par quelque masse plus lointaine, et alors retentit un bruit qui bouleversa presque tout le plan d'action que nous venions d'établir et, ce faisant, rompit le sortilège, ce qui nous permit de nous lancer dans une course folle qui nous vit repasser devant les manchots qui jabotaient, désorientés, remonter le chemin nous menant vers la cité au fil des couloirs mégalithiques enfoncés sous les glaces, déboucher dans la grande cour circulaire, puis gravir l'archaïque rampe en spirale dans une ruée machinale et frénétique vers l'air sain du dehors et la lumière du jour. Ce nouveau bruit, comme je l'ai indiqué, bouleversa presque tous nos plans, car c'était le son que la dissection de Lake nous avait conduit à attribuer à ceux qu'un instant plus tôt nous estimions morts. Danforth m'avoua plus tard qu'il s'agissait précisément de ce qu'il avait entendu, extrêmement étouffé, après le virage d'une ruelle, au-dessus de la surface des glaces. Et ce son présentait certainement une ressemblance frappante avec les hurlements flûtés du vent que nous avions tous deux entendus autour des hautes cavernes montagneuses. Au risque de paraître puéril, j'ajouterai une dernière chose, ne serait-ce que parce que l'impression de Danforth étonnamment rejoignit la mienne. Bien sûr, c'était nos lectures communes qui nous avaient amenés à une telle interprétation, bien que Danforth ait évoqué d'étranges théories selon lesquelles Poe aurait pu avoir accès à des sources insoupçonnées et interdites pendant l'écriture de son Arthur Gordon Pym, il y a un siècle de cela. On se rappellera que dans ce récit fantastique se trouve un mot à la signification inconnue, mais terrible et prodigieuse, lié à l'Antarctique, et que crient encore et toujours les oiseaux géants et à la blancheur spectrale au cœur de cette région maléfique. Tekeli, li, tekeli, li. Je dois le reconnaître, c'est exactement ce que nous crûmes distinguer dans ce bruit soudain derrière la brume blanche qui roulait vers nous. Cet insidieux sifflement musical à la tessiture étonnamment étendue. Nous avions pris nos jambes à notre cou avant même que la troisième note ou syllabe eût retenti. Certes, nous savions que la rapidité des anciens permettrait à un poursuivant ayant survécu au massacre, attiré par le cri, de nous rattraper en un instant si l'envie lui en prenait vraiment. Mais nous avions le vague espoir qu'un comportement pacifique et la démonstration de facultés parentes pourraient pousser un être comme celui-là à nous épargner en cas de capture, ne serait-ce que par curiosité scientifique. Après tout, s'il n'avait rien à craindre pour lui-même, il n'aurait aucune raison de nous faire du mal. La discrétion étant utile dans de telles circonstances, nous nous servîmes de notre torche pour jeter un coup d'œil en arrière tout en continuant de courir. Nous remarquâmes que la brume s'éclaircissait. Allions-nous enfin voir un spécimen intact et vivant de ces fameuses créatures? À nouveau retentit l'insidieux son musical. Tekeli, li, tekeli, li. Alors, remarquant que nous distancions notre poursuivant, nous comprîmes que l'entité était peut-être blessée. Cependant, nous ne pouvions prendre le moindre risque, car il était tout à fait évident qu'elle approchait en réponse aux cris de Danforth, et non pour fuir une autre créature. Les choses s'enchaînaient trop vite pour qu'il s'agisse d'une coïncidence. Quant à savoir où se trouvait ce cauchemar plus inconcevable et indéfinissable encore, cette montagne fétide encore invisible de protoplasmes cracheurs de bave, dont l'espèce avait conquis l'abysse et envoyé des pionniers resculter les galeries de la montagne et s'y contorsionner, nous n'en avions pas la moindre idée. Et nous ressentions un véritable serrement de cœur à abandonner cet ancien, probablement infirme, peut-être l'unique survivant de son groupe, au danger d'une nouvelle capture et à un sort innommable. Dieu merci, nous ne ralentîmes pas notre course. Les volutes de brume avaient retrouvé leur épaisseur, et avançaient de plus en plus vite. Pendant ce temps, derrière nous, les manchots errants jabotaient, criaillaient et montraient les signes d'une panique vraiment surprenante étant donné leur relatif manque de réaction quand nous étions passés devant eux. Le sinistre son flûté à large tessiture retentit une fois de plus. « Tekelili, Tekelili !» Nous nous étions trompés. La chose n'était pas blessée, mais avait simplement fait halte en croisant les corps de ses semblables tombés et la diabolique inscription à la bave au-dessus d'eux. Nous ne connaîtrions jamais le sens de ce message démoniaque, mais les tombes, au camp de Lake, nous avaient montré l'importance que ces êtres accordaient à leur mort. Notre torche, dont nous usions sans retenue, révéla devant nous la vaste caverne ouverte dans laquelle convergeaient différents tunnels, et nous fûmes heureux de laisser derrière nous ces morbides sculptures palimpsestiques, dont nous sentions encore presque la présence, quand bien même nous ne les distinguions quasiment plus. L'approche de la caverne nous fit aussi penser à la possibilité de semer notre poursuivant dans ce carrefour déconcertant de galeries. Il y avait plusieurs manchots aveugles et albinos dans le grand espace et, à l'évidence, leur peur de l'entité qui approchait était si extrême qu'elle confinait à l'inexplicable. À partir de là, si nous réduisions le faisceau de notre torche au strict minimum pour nous déplacer et tenions cette dernière braquée droit devant nous, l'agitation et les cris rauques des énormes oiseaux épouvantés dans la brume atténueraient peut-être le bruit de nos pas tout en cachant la direction que nous suivions, ce qui aurait pour effet de brouiller les pistes. Dans le brouillard bouillonnant, le sol jonché et rugueux du tunnel principal au-delà de ce point, à la différence des autres galeries maladivement polies, se distinguait à peine. Pas même, pour autant que nous puissions le dire, pour ces fameux sens spéciaux rendant les anciens partiellement, bien qu'imparfaitement, indépendants de la lumière en cas d'urgence. En réalité, nous avions nous-mêmes un peu peur de nous égarer dans notre hâte, car bien entendu, nous avions décidé de nous diriger tout droit vers la cité morte. En effet, se perdre dans ces galeries inconnues sous les contreforts aurait des conséquences inimaginables. Le fait que nous ayons survécu et soyons ressortis suffit à prouver que la chose a bien emprunté la mauvaise galerie pendant que la Providence nous faisait prendre la bonne. Les manchots à eux seuls n'auraient pu nous sauver, mais il semblerait qu'ils y soient parvenus avec l'aide de la brume. Un destin bienveillant avait voulu que les volutes de vapeur gagnent en épaisseur au moment opportun, car ils se déplaçaient et menaçaient en permanence de disparaître. C'est d'ailleurs ce qui se produisit l'espace d'une seconde. Juste avant que nous émergions du tunnel aux écœurants bas-reliefs palimpsestiques pour déboucher dans la caverne, ce qui nous permit d'avoir un premier aperçu, quoique partiel, de notre poursuivant, en jetant un ultime coup d'œil de terreur et de désespoir en arrière avant de baisser la lumière de notre lampe et de nous mêler aux manchots en espérant échapper à la créature. Si le destin se montra bienveillant en nous dissimulant, il fit preuve d'une infinie cruauté en nous accordant cet aperçu. Car ce que nous entreaperçûmes en un éclair fut en grande partie responsable de l'horreur qui n'a plus jamais cessé de nous hanter. Peut-être est-ce simplement l'instinct immémorial poussant le fugitif à évaluer la nature et le chemin suivi par son poursuivant qui nous fit jeter ce coup d'œil. Ou peut-être était-ce un réflexe répondant à une question subconsciente soulevée par l'un de nos sens. En pleine fuite, toutes nos facultés étant focalisées sur le problème de notre salut, nous n'étions pas en état d'observer et d'analyser les détails. Et pourtant, même comme cela, nos cellules cérébrales latentes durent s'interroger sur le message que leur envoyaient nos narines. Après coup, nous comprîmes de quoi il s'agissait. Que notre retraite devant la bave fétide recouvrant les obstacles décapités et l'approche simultanée de l'entité qui nous pourchassait ne nous avait pas apporté l'échange de puanteur qu'exigeait la logique. À proximité des cadavres, la plus récente des deux odeurs fétides, encore inexplicable, avait largement prédominé. Mais à cette distance, elle aurait dû presque disparaître au profit de l'indicible relent associé aux autres. Ce n'était pas le cas. À la place, la seconde odeur moins insupportable était désormais pratiquement pure et paraissait à chaque seconde un peu plus présente et toxique. Nous nous retournâmes donc, en même temps, semble-t-il, bien que l'amorce du mouvement de l'un ait sans doute encouragé l'autre à l'imiter. Ce faisant, nous braquâmes nos deux torches à pleine puissance sur la brume momentanément moins dense, soit par simple besoin instinctif de voir tout ce que nous pouvions, soit, de façon moins primitive, mais tout aussi inconsciente, pour éblouir la créature avant d'éteindre à nouveau les lampes et de nous faufiler parmi les manchots une fois parvenus au centre du labyrinthe. Grand mal nous en prit. Ni Orphée lui-même, ni la femme de Lot ne payèrent beaucoup plus cher à un regard en arrière. Une fois de plus revint cet odieux sifflement à large tessiture, Tekelili, Tekelili. Autant décrire franchement ce que nous vîmes. Même si je ne puis supporter d'être tout à fait direct, et bien que sur le moment, nous eûmes tous deux l'impression qu'il ne fallait pas l'admettre, même entre nous. Les mots qui parviendront au lecteur ne pourront jamais rendre compte, même de loin, de l'horrible vision qui s'offrit à nous. Notre conscience se figea complètement, et je m'étonne d'ailleurs que nous ayons gardé assez de bon sens pour baisser nos lumières comme prévu et emprunter le bon tunnel pour regagner la cité morte. L'instinct seul dut nous guider, mieux peut-être que ne l'aurait fait la raison. Quoi qu'il en soit, nous payâmes notre salut au prix fort, car, de raison, nous n'en avions plus guère. Danforth était totalement accablé, et la première chose que je me rappelle du reste du voyage, c'est l'avoir entendu psalmodier d'un air absent, une litanie hystérique dans laquelle j'aurais été le seul au monde à voir autre chose que les divagations d'un fou. L'écho de sa voix de fausset se répercutait parmi les jabotages de manchots, à travers les voûtes devant nous et, Dieu merci, à travers celles de derrière désormais vides. Il n'en fit pas davantage, sinon nous n'aurions pas été en vie à courir tête baissée comme nous le faisions. Je tremble d'imaginer les conséquences si ses réactions nerveuses avaient été un tant soit peu différentes.
« South Station Under, Washington Under, Park Street Under, Kendall, Central, Harvard. »
Le pauvre garçon scandait le nom des stations familières de les lignes de métro Boston-Cambridge, dont le tunnel traversait notre paisible terre natale, à des milliers de kilomètres de là, en Nouvelle-Angleterre. Mais ce rituel n'éveilla chez moi ni perplexité ni nostalgie, seulement de l'horreur. Car je savais de façon certaine quelle monstrueuse et indicible analogie l'avait inspirée. En nous retournant, nous nous étions attendus, à condition que les vapeurs fussent assez légères, à voir une créature de cauchemar se déplaçant de manière incroyable. Mais nous nous étions fait une idée précise de son apparence. Ce que nous vîmes en l'occurrence, la brume n'étant effectivement que trop malignement transparente, était tout à fait différent et incommensurablement plus hideux et détestable. C'était l'incarnation parfaite, concrète, de ce que le romancier fantastique nomme « la chose qui ne devrait pas être ». Et son équivalent le plus proche et compréhensible est un énorme métro lancé à toute vitesse, que l'on verrait arriver depuis le quai d'une station, son grand avant noir surgissant tel un colosse des infinies profondeurs souterraines, constellé de lumières étrangement colorées et remplissant la prodigieuse galerie comme un piston remplit un cylindre. Mais nous n'étions pas sur le quai. Nous étions sur la voie, devant la cauchemardesque colonne élastique de noire iridescence fétide qui avançait en se hintant, serré dans le boyau de 4,50 mètres de diamètre, gagnant une vitesse invraisemblable et poussant devant elle un nuage spiralé redevenu épais de pâles vapeurs d'abysse. Cette indescriptible horreur était plus grande qu'aucun métro. C'était un amas informe et légèrement luminescent de bulles protoplasmiques sur lesquelles des yeux éphémères apparaissaient par myriades, puis disparaissaient comme autant de pustules de lumière verdâtre sur tout l'avant qui remplissait le tunnel et fondait sur nous en écrasant les manchots affolés et en glissant sur le sol luisant que ses congénères et elle avaient si férocement récuré. Et encore et toujours ce cri surnaturel et narquois, « Tekelili, Tekelili !» Enfin, nous nous rappelâmes que les démoniaques chogotes, et qui tenaient uniquement leur vie, leurs pensées et leurs organes malléables des anciens, et sans autre ancrage que celui des groupes de points, avaient pour toute voix les accents imités sur ceux de leur maître disparu. Douzième partie. Danforth et moi nous rappelons avoir débouché dans le grand hémisphère sculpté, et aussi nous être faufilés de salle en couloir cyclopéen de la cité morte sur le chemin du retour. Cependant, Il s'agit de simples bribes de rêve, sans que nous ayons souvenir d'un quelconque acte volontaire, d'une action physique précise, ni du moindre détail. C'était comme si nous avions flotté dans un monde nébuleux, quelques dimensions où ni le temps, ni l'orientation, ni les relations de causalité n'existaient. Et si le demi-jour gris de la vaste cour circulaire nous calma un peu, nous n'approchâmes pas des traîneaux cachés et ne revîmes donc ni le pauvre Guedenet, ni le chien. Ils ont là un étrange et titanesque mausolée, et j'espère qu'ils reposeront en paix jusqu'à ce que cette planète ne soit plus. C'est en gravissant la spirale de la rampe colossale que nous ressentîmes pour la première fois la terrible fatigue et l'essoufflement résultant de notre course dans l'air raréfié du plateau. Mais pas même la peur de l'effondrement ne put nous forcer à faire une pause avant d'avoir atteint le monde extérieur normal, celui du ciel et du soleil. Nous quittâmes ces époques ensevelies dans un contexte assez opportun car, à mesure que nous montions en haletant les 20 mètres du cylindre de maçonnerie primitive, nous apercevions sur le côté une succession ininterrompue de bas-reliefs héroïques sculptés, dans le style ancien et intact de la race morte. Un adieu des anciens écrit il y a 50 millions d'années. Lorsqu'enfin nous surgîmes du sommet, nous nous retrouvâmes en haut d'une véritable montagne de blocs effondrés. Les murs courbes de l'édifice plus élevé se dressaient à l'ouest, et les pics menaçants de la grande chaîne dépassaient derrière les structures plus dégradées à l'est. Au ras de l'horizon sud, le soleil de minuit rougeoyant de l'Antarctique jetait des coups d'œil par les fractures des ruines déchiquetées. Et l'âge et la torpeur inconcevable de la cité cauchemardesque semblaient d'autant plus extrêmes quand on les comparait à des choses relativement connues et familières, comme les traits du paysage polaire. Au-dessus, le ciel n'était que bouillonnement opalescent de légères vapeurs glacées. Le froid nous saisit littéralement. Nous déposâmes avec lassitude les sacs de matériel auxquels nous nous étions accrochés par réflexe tout au long de notre fuite désespérée et reboutonnâmes nos gros manteaux avant de descendre tant bien que mal la montagne de décombres et de traverser l'immémorial labyrinthe de pierre jusqu'au contrefort où nous attendait notre avion. Nous ne parlâmes pas du tout de ce qui nous avait poussé à fuir ces ténèbres, domaine des secrets de la terre et des gouffres archaïques. En moins d'un quart d'heure, nous avions regagné la pente abrupte montant au contrefort, celle qui était probablement une ancienne terrasse, par laquelle nous étions descendus. Nous apercevions la masse sombre de notre grand avion entre les ruines éparses de la montée devant nous. Parvenus à mi-hauteur, nous fîmes une pause pour reprendre notre souffle, et nous nous retournâmes afin de jeter encore un regard en contrebas aux fantastiques dédales paléogènes de pierre aux formes incroyables, dédales qui, à nouveau, se découpaient surnaturellement sur l'ouest inconnu. Ce faisant, nous vîmes que le ciel au-delà avait perdu sa brume matinale. Les vapeurs de glace instables étant montées jusqu'au zénith, où leurs contours moqueurs semblaient sur le point d'adopter quelques formes bizarres, ils craignaient de rendre de façon plus précise ou concluante. Apparaissait maintenant sur l'ultime horizon blanc, derrière la cité insolite, une lointaine ligne féerique de pitons violets, dont les sommets en aiguilles surgissaient, tel un rêve, sur le rose attirant du ciel occidental. L'antique plateau montait vers cette chatoyante bordure, le lit creux de l'ancien fleuve le traversant à la manière d'un ruban d'ombre irrégulier. Pendant un instant, nous restâmes bouche bée d'admiration face à l'hallucinante beauté cosmique de la scène. Mais une vague horreur commença à s'insinuer dans nos âmes. Car cette lointaine ligne violette ne pouvait être que la terrible chaîne de montagnes des terres interdites. Les plus hauts sommets de la terre, concentrant toute sa malveillance, théâtre d'indicibles horreurs et foyer de secrets archéens, des pics à la fois fuis et adorés par ceux qui craignaient d'en découvrir la nature, des pics que nul être vivant sur la planète n'avait jamais foulés, mais sur lesquels se déchaînaient de sinistres éclairs et qui, dans la nuit polaire, projetaient d'étranges raies de lumière au-dessus des plaines. Sans le moindre doute, c'était l'archétype inconnu de la redoutable Kadat dans le désert glacé, au-delà de l'odieuse Leng à laquelle les légendes primitives font de vagues allusions. Nous étions les premiers êtres humains à voir ces montagnes, et plaise au ciel que nous soyons les derniers. Si les cartes et images sculptées dans cette cité préhumaine avaient dit vrai, ces mystérieuses montagnes violettes ne pouvaient pas se trouver à beaucoup moins de 500 kilomètres, et cependant, leur lointaine substance sphérique ne se détachait pas moins nettement au-dessus de l'horizon distant et neigeux, tel le bord en dents de scie d'une monstrueuse planète étrangère sur le point de monter vers des cieux extravagants. Leur hauteur devait donc dépasser l'imagination. Sans doute atteignait-elle des couches atmosphériques où l'oxygène était rare, couches peuplées de spectres gazeux, dont certains aviateurs imprudents ont à peine pu murmurer l'existence après une chute inexplicable. En les contemplant, je repensais nerveusement aux bas-reliefs racontant par allusion ce que le grand fleuve défunt avait charrié jusqu'à la cité depuis leur versant maudit, et me demandais quelle était la part de bon sens et de folie dans les craintes des anciens qui les sculptaient avec tant de réticence. Je me rappelais que leur extrémité nord devait être proche de la côte de la Reine Marie, où, à ce moment précis, devait œuvrer l'expédition de Sir Douglas Mawson, sans doute à moins de 1 600 kilomètres de là, ce qui me conduisit à espérer qu'aucun sort néfaste ne ferait apercevoir à Sir Douglas et à ses hommes ce qui pouvait se cacher derrière le mur protecteur de la chaîne côtière. Ces pensées témoignent de l'état d'épuisement dans lequel je me trouvais. Quant à Danforth, il paraissait plus éprouvé encore. Pourtant, bien avant d'avoir dépassé la grande ruine en forme d'étoile et regagné notre avion, nos peurs s'étaient reportées sur la chaîne, moins élevée mais bien assez gigantesque, que nous allions devoir retraverser. Depuis les contreforts, ces pentes noires couvertes de ruines se dressaient, mornes et hideuses, devant l'Orient, ce qui nous rappela une fois encore les étranges peintures asiatiques de Nicolas Roerich. Et lorsque nous pensâmes aux terrifiants dédales qu'elles recelaient, et aux effrayantes entités amorphes et fétides qui avaient pu se glisser jusqu'aux galeries des plus hautes cimes creuses, nous ne pouvions que paniquer à l'idée de voler une fois de plus à proximité de ces inquiétantes cavernes bâillant vers le ciel, et dont la gueule émettait des sons rappelant des sifflements musicaux à large tessiture. Pour ne rien arranger, nous vîmes autour de plusieurs sommets de légers mais net panache de brume, comme sans doute le pauvre Lake lorsqu'il avait tout d'abord cru la chaîne d'origine volcanique, et pensâmes en frissonnant à la brume semblable à laquelle nous venions d'échapper, mais aussi au maudit abysse d'horreur d'où provenaient toutes ces vapeurs. L'appareil étant en parfait état de fonctionnement, nous enfilâmes maladroitement nos grosses fourrures de vol. Danforth démarra le moteur sans problème, et nous fîmes un décollage parfait au-dessus de la cité cauchemardesque. En bas, les primitives constructions cyclopéennes s'étendaient comme la première fois que nous les avions vues, dans un passé à la fois si proche et si infiniment lointain. Et nous commençâmes notre ascension en tournoyant pour tester le vent avant de franchir le col. Il devait y avoir de grandes perturbations à très haute altitude, car, au zénith, les nuages de poussière de glace formaient toutes sortes de silhouettes fantastiques. Mais à 7300 mètres, la hauteur nécessaire pour franchir le col, la navigation nous parut tout à fait abordable. À l'approche des pics proéminents, le vent refit entendre sa complainte flûtée, et je vis les mains de Danforth trembler sur les commandes. Bien que simple amateur, je pensais alors que je négocierais mieux que lui la dangereuse traversée entre les pics. Et lorsque je fis mine de changer de siège pour me charger du pilotage, il ne protesta pas. Tâchant de garder ma maîtrise et mon sang-froid, je rivai le regard sur le lointain ciel rougeoyant, entre les parois du col, et refusai obstinément de prêter attention aux bouffées de vapeur entourant les sommets. Je regrettais de ne pas avoir les oreilles bouchées à la cire comme les matelots du lys au large de la côte des sirènes, afin d'empêcher la complainte aiguë du vent de hanter mes pensées conscientes. Mais Danforth, dispensé du pilotage et au comble de la tension, était incapable de se tenir tranquille. Je le sentais tourner et virer en regardant derrière nous s'éloigner l'effroyable cité, devant les pics rongés par les cavernes et constellés de temples accrochés comme des bernacles. Sur les côtés, la morne étendue des contreforts neigeux et parsemés de remparts, et au-dessus, le ciel bouillonnant de nuages grotesques. C'est à ce moment, alors que je m'efforçais de franchir le col sans heurts, que son cri de dément nous fit frôler la catastrophe en réduisant à néant ma concentration et en me faisant l'espace d'un instant tâtonner, impuissant sur les commandes. Une seconde plus tard, ma volonté triomphe, si bien que nous ressortîmes vivants de la passe. Cependant, j'ai bien peur que Danforth ne soit plus jamais le même. J'ai dit que Danforth refusait de me révéler quelle ultime horreur lui avait arraché ce hurlement de fou. Une horreur qui, j'en suis malheureusement sûr, est la principale responsable de son actuelle dépression. Alors que nous atteignions le bon côté de la chaîne et entamions notre lente descente vers le camp, nous échangeâmes des bribes de conversation en criant pour couvrir les sifflements du vent et le vrombissement du moteur. Mais elle portait surtout sur les promesses de silence que nous nous étions faites alors que nous nous apprêtions à quitter la cité de cauchemar. Il est des choses, étions-nous convenus, que les gens ne doivent pas savoir, ni traiter à la légère, et je n'en parlerai pas maintenant s'il ne me fallait décourager à tout prix l'expédition Starkweathermore, entre autres. Il est absolument nécessaire pour la paix et la sécurité de l'humanité que l'on ne touche pas à certains des recoins sombres et morts, certaines profondeurs inviolées de la terre, de peur que des monstres endormis reprennent vie, et que des cauchemars dont la survivance tient du blasphème remontent en se tortillant de leur noire tanière et surgissent à la surface, attirés par la soif de nouvelles et plus grandes conquêtes. Tout ce que Danforth a jamais suggéré, c'est que l'horreur finale était un mirage. Cela n'avait rien à voir, affirme-t-il, avec les cubes et cavernes de ces montagnes de la démence, ces sommets sonores nimbés de vapeur creusés d'innombrables galeries que nous avions survolées. C'était plutôt une unique vision démoniaque, parmi les nuages bouillonnants au zénith, de ce qui, dans l'ouest, se trouvait derrière ces autres montagnes violettes que les anciens avaient fuies et redoutées. Il est très probable qu'il se soit agi d'une simple hallucination née des épreuves que nous venions de traverser, mais aussi du mirage véritable, bien que non identifié, de la veille, près du camp de Lake, figurant la cité morne par-delà la chaîne. Toutefois, cela parut si réel à Danforth qu'il en souffre encore. En de rares occasions, il lui arrive de murmurer des propos incohérents et déraisonnables à propos d'un puits noir, d'une bordure sculptée, de proto-Shoggoth, des solides à cinq dimensions, de l'indicible cylindre, de l'antique pharos, de Yog-Sothoth, de la gelée blanche primordiale, de la couleur venue d'ailleurs, des ailes, des yeux dans le noir, de l'échelle vers la lune, de l'originel, l'éternel, l'impérissable, entre autres concepts bizarres. Mais quand il redevient lui-même, il rejette tout cela en l'attribuant aux lectures curieuses et macabres des années précédentes. En effet, Danforth est connu pour être l'un des rares à avoir osé lire dans son intégralité l'exemplaire rongé par les vers du Necronomicon que la bibliothèque de l'université garde sous clé. Les hauteurs du ciel, tandis que nous franchissions le col, étaient certainement vaporeuses et assez perturbées, et même si je ne voyais pas le zénith, j'imagine sans mal les tourbillons de poussière y prendre d'étranges formes. Sachant avec quel réalisme les décors lointains peuvent être reflétés, réfractés et agrandis par de telles couches de nuages mobiles, l'imagination avait aisément pu combler les blancs. D'autant, bien sûr, que Danforth n'a évoqué ces horreurs-là qu'après que sa mémoire a eu l'occasion de s'inspirer de ses lectures passées. Il est tout à fait impossible qu'il en ait en vue en un seul regard. Sur le moment, ses cris se limitèrent à la répétition d'un unique mot dément dont l'origine n'est que trop évidente. « Tekelili, Tekelili !»